Chapitre 53, Différends et polémiques. L'Esprit de Dieu, source d'unité, Dieu incarne la bonté, la miséricorde et l'amour. Ceux qui sont vraiment en contact avec lui ne sauraient être en désaccord les uns avec les autres. Quand son esprit régit le cœur, il crée l'harmonie, l'amour et l'unité. On constate le contraire parmi les enfants de Satan. Son œuvre consiste à susciter l'envie, les différends et la jalousie. Je demande au nom de mon maître, quel fruit portez-vous? Semaille et moisson mortelle, en semant la dissension et la zizanie, on récolte en son âme des fruits mortels. Le fait même de soupçonner le mal chez les autres développe celui-ci chez ceux qui le prévoient. Les objectifs de Satan, Satan cherche constamment à semer la méfiance, l'égarement et la méchanceté au milieu du peuple de Dieu. Nous serons souvent tentés de croire, sans raison véritable, qu'on a violé nos droits. Les discordes, les disputes et les procès entre frères sont une honte pour la cause de la vérité. Ceux qui agissent ainsi exposent l'Église au ridicule de ses ennemis, et font triompher les puissances des ténèbres. Ils ouvrent à nouveau les blessures du Christ et le livrent à une honte publique. Les disputes conduisent à l'agressivité. La particularité de l'œuvre mensongère de Satan a été de provoquer des controverses afin qu'il y ait des disputes de mots inutiles. Il sait bien que cela accaparera l'esprit et le temps. Cela attise la combativité et étouffe l'esprit de conviction chez beaucoup, les amenant à des divergences d'opinion, des accusations, des préjugés qui ferment la porte à la vérité. Le retour du Christ différé, durant 40 ans, l'incrédulité, les murmures et la rébellion ont interdit à l'ancien Israël l'entrée dans le pays de Canaan. C'est l'incrédulité, l'amour du monde, le manque de consécration et les différends de ceux qui prétendent appartenir au peuple de Dieu qui nous ont retenus pendant si longtemps dans ce monde de péché et de tristesse. Ce n'est pas l'heure des débats, les hommes et les femmes qui prétendent servir le Seigneur se plaisent à passer leur temps à dévêtir. Ils se plaisent à être en désaccord les uns avec les autres. S'ils étaient consacrés à l'œuvre du Maître, ils ne se chamailleraient pas comme une famille d'enfants turbulents. Chacun serait occupé à servir. Chacun serait au poste qui lui est assigné, travaillant de tout son cœur et de toute son âme comme un ambassadeur de la croix du Christ. Les ouvriers bénéficieraient pour leur ministère des prières et de la solidarité d'une Église dynamique. Ils recevraient leurs directives du Christ et n'auraient pas le temps de discuter et de se disputer. Ne permettons pas que des disputes éclatent à propos de bagatelles. Si chacun ouvre les fenêtres de son âme en direction du ciel et les ferme sur ce qui est terrestre, l'esprit d'amour et de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ unira les cœurs. Renoncez au débat, la puissance de la grâce de Dieu fera davantage pour l'âme que les débats ne pourraient accomplir durant une vie entière. Grâce au pouvoir de la vérité, combien de choses pourraient être réglées et combien de débats surannés pourraient s'apaiser. Le grand et noble principe, paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent, sera bien mieux mis en pratique lorsque ceux qui croient en Christ seront ouvriers avec Dieu. Alors, toutes les vétilles sur lesquelles certains reviennent sans cesse, bien qu'elles ne soient pas tranchées avec autorité par la parole de Dieu, ne seront plus grossies comme s'il s'agissait de questions majeures. Attitude de Jésus envers Thomas, l'incrédule, par sa façon d'agir avec Thomas, Jésus a donné une leçon à tous ses disciples. Son exemple nous montre comment nous devons nous conduire à l'égard de ceux dont la foi est faible et qui présentent sans cesse leurs doutes. Jésus n'a pas accablé Thomas de reproches, et il n'a pas engagé de controverse avec lui. Il s'est simplement révélé à celui qui doutait. Thomas était déraisonnable en fixant les conditions de sa foi. Mais Jésus, par un amour généreux et plein d'égards, renversa toutes les barrières. Il arrive rarement que l'incrédulité soit vaincue par la controverse. Au contraire, elle met sur la défensive et trouve de nouveaux appuis et de nouveaux prétextes. Mais que Jésus se révèle comme le Sauveur crucifié, plein d'amour et de miséricorde, et bien des lèvres laisseront échapper involontairement le cri de Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Évitez les discussions avec les malades, ne vous permettez aucune discussion, religieuse ou autre, au chevet du malade. Mais, pieusement, avec douceur, diriger son âme vers celui qui peut sauver ceux qui viennent à lui avec foi. Avec zèle et tendresse, efforcez-vous d'aider l'âme qui oscille entre la vie et la mort. Inutilité de la controverse, il ne nous appartient pas d'engager la controverse avec ceux qui professent des théories erronées. La controverse n'est pas profitable. Le Christ ne s'y est jamais engagé. Il est écrit, « Telle est l'arme dont le Rédempteur du monde s'est servi. » Tenons-nous tout près de la parole. Laissons au Seigneur Jésus et à ses messagers le soin de témoigner, car nous savons que leur témoignage est véridique. Il est rare que les nombreux sermons à caractère polémique touchent et subjuguent l'âme. Mieux vaut rester positif, ne cultivez pas un esprit de polémique. On ne tire que peu de bien des déclarations accusatrices. Le plus sûr moyen de réduire à néant une fausse doctrine est de prêcher la vérité. Restez positif. Que les précieuses vérités de l'Évangile annihilent la force du mal. Témoignez d'un esprit affectueux et compatissant à l'égard de ceux qui s'égarent. Approchez-vous des cœurs. Comment éveiller les esprits? En tout temps, les messagers choisis par Dieu ont été méprisés et persécutés. Mais leurs afflictions ont contribué à répandre la connaissance de Dieu. Chaque disciple du Christ doit entrer dans les rangs et accomplir la même œuvre, sachant que ses ennemis ne peuvent rien contre la vérité mais que tout ce qu'ils feront tournera en faveur de celle-ci. Dieu désire que cette vérité soit mise en évidence, qu'elle soit examinée et discutée, malgré le mépris dont on l'accable. Les esprits doivent être remués. Tous les efforts qui sont faits dans le but de restreindre la liberté de conscience sont des moyens dont Dieu se sert pour éveiller les esprits, qui, autrement, sommeilleraient. Influence de la mésentente des parents sur les enfants, ce sont les parents qui, dans une large mesure, créent l'atmosphère du cercle familial, et quand survient une mésentente entre le père et la mère, les enfants partagent le même état d'esprit. Parfumez l'atmosphère de votre foyer par de douces attentions. Si la brouille a éclaté entre vous, et que vous ayez cessé de vous comporter comme des chrétiens attachés à la Bible, convertissez-vous. Car le caractère que vous manifestez pendant le temps d'épreuve sera le caractère même que vous aurez au moment de la venue du Christ. Le chemin de la paix, votre famille peut être heureuse ou malheureuse. Cela dépend de vous. Votre comportement déterminera l'avenir. Il vous faut tous deux arrondir les angles de vos caractères et ne prononcer que des paroles dont vous n'aurez pas honte au jour de Dieu. Vous pouvez vous disputer à propos de choses qui n'en valent pas la peine, ce qui ne vous attirera que des ennuis. Le chemin de la justice est le chemin de la paix. Il est si net que l'homme humble et qui craint Dieu peut y marcher sans trébucher et sans prendre de détour. C'est un chemin étroit. Mais des hommes possédant différents tempéraments peuvent y marcher côte à côte s'ils suivent le chef de leur salut. Cultivez la patience, les paroles dures, agressives, ne sont pas d'origine céleste. Les réprimandes et l'anxiété ne servent à rien. Elles ne servent qu'à exciter les pires sentiments du cœur humain. Quand vos enfants agissent mal, qu'ils débordent de révolte et que vous êtes tenté de leur parler et de les traiter avec dureté, attendez avant de les corriger. Donnez-leur l'occasion de réfléchir, et donnez-vous le temps de retrouver votre sang-froid. Si vous agissez avec bonté et douceur envers vos enfants, eux et vous recevrez la bénédiction du Seigneur. Croyez-vous qu'au jour du jugement, qui que ce soit regrettera d'avoir fait preuve de patience et de bonté à l'égard de ses enfants? Le secret de l'unité, c'est le fait de vivre loin du Christ qui engendre la division et la discorde dans les familles et dans l'Église. S'approcher du Christ, c'est s'approcher les uns des autres. Le secret de la véritable unité dans l'Église et dans le foyer ne réside ni dans la diplomatie, ni dans une bonne gestion, ni dans un effort surhumain pour vaincre les difficultés, bien que tous ces éléments aient leur rôle à jouer, mais dans l'union avec le Christ. Dessinez un cercle d'où vous ferez partir plusieurs lignes depuis la circonférence jusqu'au centre. Plus celle-ci s'approche du centre, plus elles se rapprochent les unes des autres. Il en est ainsi dans la vie chrétienne. Plus nous nous approchons du Christ, plus nous nous rapprochons les uns des autres. Dieu se trouve glorifié lorsque son peuple est uni dans une action menée d'un commun accord. Le devoir des parents, une confiance parfaite devrait exister entre eux, les parents. Qu'ils envisagent ensemble leurs responsabilités et travaillent pour le plus grand bien de leurs enfants, ne se critiquant jamais en leur présence et ne mettant jamais en doute la valeur de leurs jugements respectifs. Que la femme s'efforce de ne pas compliquer la tâche de son mari à l'égard de ses enfants, et que le mari collabore avec sa femme en la conseillant avec sagesse et affection. Si le père et la mère s'opposent et agissent l'un contre l'autre pour neutraliser mutuellement leur influence, la famille en sera ébranlée. Ni la mère ni le père ne bénéficieront du respect et de la confiance nécessaires à la bonne marche du ménage. Les enfants ont vite fait de relever tout ce qui peut jeter le discrédit sur les principes et les règles de la vie familiale, et tout spécialement sur celles qui restreignent leur liberté. Nécessité d'encourager les enfants. Vous n'avez pas le droit d'assombrir le bonheur de vos enfants par un nuage de tristesse avec des critiques ou des réprimandes sévères pour des fautes sans importance. Lorsqu'il s'agit de vraies fautes, elles doivent être envisagées selon le degré réel de leur gravité, et traitées comme telles et avec fermeté pour éviter qu'elles ne se reproduisent. Mais les enfants ne doivent pas être voués au désespoir. Au contraire, avec une certaine dose de courage, ils peuvent faire des progrès, gagner votre confiance et mériter votre approbation. Les enfants peuvent désirer bien faire. Ils peuvent désirer sincèrement devenir obéissants, mais ils ont besoin d'être aidés et encouragés. Paix dans l'Église, que la paix règne au foyer, et il y aura la paix dans l'Église. Cette précieuse expérience introduite dans l'Église sera un moyen de créer une chaleureuse affection les uns pour les autres. Les querelles cesseront, et l'on verra une véritable délicatesse chrétienne se manifester entre les membres de la communauté. Le monde se rendra compte qu'ils ont été avec Jésus et qu'ils ont assimilé ses enseignements. Quelle impression l'Église ne ferait-elle pas sur le monde si tous ses membres vivaient en chrétiens? La mort efface tous les différends, quand la mort ferme les yeux, quand les mains sont croisées sur la poitrine inanimée, combien rapidement s'évanouissent les différends. Plus de rancune, plus d'amertume. Les outrages et les torts sont pardonnés, oubliés. Que de louanges on prononce sur les morts. Que de beaux aspects de leur vie se présentent à l'esprit. Désormais, on donne libre cours aux éloges. Mais ils frappent des oreilles qui n'entendent pas, des cœurs qui ne sentent plus. Combien se tiennent horrifiés et silencieux au chevet d'un mort ? Se rappelant avec honte et tristesse les paroles et les actes qui ont apporté le chagrin à un cœur désormais inanimé. Mettons dans notre vie toute la beauté, tout l'amour et toute la bonté dont nous sommes capables. Soyons prévenants, reconnaissants, patients et tolérants les uns avec les autres. Que les pensées et les sentiments qui trouvent leur expression au chevet des mourants et des morts soient manifestés en cette vie dans nos rapports quotidiens avec nos frères et nos sœurs. Être disposé à corriger ses erreurs, bien qu'ils soient théoriquement fondés dans la vérité présente, que nul ne s'imagine être à l'abri des erreurs. Mais si des fautes sont commises, on doit être disposé à les corriger. Par ailleurs, évitons tout ce qui risque de créer des désaccords et des querelles, car le ciel nous attend. Or, parmi ses habitants, il n'y aura pas de désaccord. L'amour couvre une multitude de péchés. Il y aura toujours des différences d'opinion, car tous les esprits ne sont pas bâtis sur le même modèle. De plus, les tendances héréditaires et acquises doivent être maîtrisées, pour éviter qu'elles ne créent des conflits sur des questions secondaires. Les ouvriers du Christ doivent être unis par des liens de chaleureuse sympathie et d'amour. Que nul ne suppose qu'il lui appartient de défendre ses propres idées, et qu'il ne s'imagine pas être le seul à qui le Seigneur a donné le discernement et l'intuition requis. La charité chrétienne couvre une multitude de choses que l'on peut considérer comme des défauts chez les autres. Nous avons besoin de beaucoup plus d'amour et de beaucoup moins de critiques. Quand le Saint-Esprit agit vraiment dans le cœur des pasteurs et de leurs assistants, ils manifesteront la tendresse et l'amour du Christ. Nous abstenir d'attaquer les autorités civiles, Quelques-uns de nos frères ont, dans leurs écrits ou leurs discours, fait certaines déclarations qui ont été interprétées comme étant des attaques dirigées contre le gouvernement et les lois du pays. C'est une erreur que nous ne devons pas commettre. Il n'est pas sage de critiquer continuellement ce que font les chefs de gouvernement. Ce n'est pas à nous d'attaquer les individus et les institutions. Soyons très prudents, de peur d'être mis au rang de ceux qui combattent les autorités. S'il est vrai qu'il nous faut être en état de perpétuelle offensive, nos armes doivent être fournies par des passages formels de l'Écriture. Notre œuvre consiste à préparer un peuple qui puisse subsister au grand jour de Dieu. Ne nous comportons donc pas de manière à susciter l'opposition ou à éveiller l'antagonisme de ceux qui ne partagent pas notre foi. L'œuvre des agents sataniques, j'ai vu que des anges du mal sous la forme de croyants agiront dans nos rangs pour y introduire un profond esprit d'incrédulité. Mais que cela ne vous décourage pas. Au contraire, mettez tout votre cœur à collaborer avec le Seigneur dans sa lutte contre le pouvoir des agents sataniques. Ces puissances maléfiques s'introduiront dans nos réunions, non pour recevoir une bénédiction, mais pour contrecarrer l'influence de l'Esprit de Dieu. N'en tenez pas compte, mais rappelez les merveilleuses promesses de Dieu qui sont oui et amen dans le Christ Jésus. Nous ne devons jamais relever les paroles que des lèvres humaines peuvent prononcer pour prêter main forte à l'œuvre des anges du mal, mais répéter les paroles du Christ.